Frères et sœurs bien-aimés, nous honorons en cette solennité Saint Joseph, que l'Évangile nomme le Juste. Il est le patriarche de la Sainte Famille, à qui nous confions ce soir l'avenir et l'avenir surnaturel de toutes nos familles. Il est le patron des travailleurs. Nous le prions pour qu'en notre France ne s'éteigne pas le sens du travail véritable, vécu comme un service, mais aussi comme le moyen de recevoir sa dignité et celui de subvenir aux besoins de sa maison. Saint Joseph est également le patron de la bonne mort. De la bonne mort, c'est-à-dire de la mort qui ne nous surprend pas comme un voleur dans la nuit. Nous demandons à Saint Joseph de nous délivrer d'une mort imprévue. Et si nous demandons cela dans une époque où on se dit « Oh, il est mort sans s'en rendre compte, tant mieux !» Nous demandons à Saint Joseph la sagesse chrétienne de voir son heure arriver pour faire amende honorable, demander le sacrement de la confession pour le pardon de ses fautes, mais également le secours des sacrements de l'Église pour ne pas simplement mourir comme un païen, mais mourir en chrétien. S'il est le patron de la bonne mort, c'est parce qu'il a eu cette grâce insigne de mourir entre les bras de Jésus et de Marie. Il est en cela le modèle du chrétien qui est à quelques heures de sa Pâque, de cette rencontre avec Dieu, son Créateur, son Rédempteur, et qui sera son juge. Nous honorons donc Saint Joseph, patron de nos familles, patron de tous les travailleurs, patron de la bonne mort. Et c'est vers lui que nous tournons nos âmes alors que nous entendons dans l'Évangile l'épisode que nous avons coutume d'appeler le songe de Saint Joseph. C'est en définitive son annonciation. Deux lectures complémentaires de cet Évangile habitent la tradition de l'Église. La première est celle du sens littéral. Joseph, vous l'avez entendu dans l'Évangile, est l'époux de Marie. Pourtant, ils n'habitent pas encore ensemble, car le mariage dans la tradition juive n'est pas le mariage comme nous le vivons dans la tradition chrétienne. Il se passe en deux temps bien distincts. Voilà que le fiancé qui va demander la main de sa promise rencontre le patriarche, le père de famille. Et à celui-ci, il promet non pas monts et merveilles, mais il promet ce qu'il pourra venir, eh bien, offrir pour pouvoir mériter d'emporter la fille bien-aimée de ce père qui consent alors au mariage. Le contrat est donc dressé. Et dans la tradition juive, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où le fiancé viendra. La seule chose que nous savons, c'est qu'il viendra de nuit, apportant ce qu'il a promis et prenant alors en retour sa promise. Le mariage est donc contracté, il est déjà réalisé d'après la loi. Mais l'heure n'est pas encore de cette vie commune, ni même de la consommation de ce mariage qui en scelle alors l'alliance, une alliance qui va s'ouvrir à la vie. Saint Joseph a donc contracté ce mariage. Il est le fiancé, dirions-nous, en notre culture. Mais dans la leur, il est déjà l'époux. L'époux qui devra subvenir dans la nuit et prendre son épouse. Nous entendons alors le nombre de paraboles que le Seigneur nous donne dans l'Évangile, se présentant comme l'époux. L'époux qui vient sans retard, sans retour, au milieu de la nuit, qui demande à ses vierges de l'attendre, la lampe allumée. Image de l'âme chrétienne qui attend le retour du Christ, le retour de l'époux. Saint Joseph est donc marié avec la Sainte Vierge. Or, il voit que celle-ci est enceinte. Et au sens littéral, Saint Matthieu apporte une précision importante. Saint Joseph n'est pas le père selon la chair de cet enfant. Il peut donc légitimement penser que sa promise l'a trompé. C'est suffisamment important dans l'Évangile pour bien comprendre, et bien que notre Seigneur Jésus le Christ, s'il est véritablement le Fils de Marie dans l'ordre de la chair, La Vierge a bien précisé à son Annonciation qu'elle acceptait, mais je ne connais pas d'homme, sous-entendu, je suis vierge. Comment cela va-t-il se faire? Est-ce que je dois poursuivre ce mariage avec Joseph, mon fiancé, mon époux? Et la voix de l'ange lui dit que l'Esprit-Saint la prendra sous son ombre. Et voilà qu'elle devient la mère de Dieu. Saint Joseph, qui aime profondément la Sainte Vierge, sa promise, ne veut pas la dénoncer publiquement pour adultère, car elle encourait, selon la loi de Moïse, la lapidation. C'est un homme juste, parfaitement ajusté à l'amour de Dieu, aimant profondément sa fiancée, qu'il peut légitimement penser qu'elle l'a trompé, et il préfère alors rompre le contrat. C'est le sens littéral, pour bien nous rappeler que notre Seigneur Jésus le Christ n'est pas le fils de Saint Joseph dans l'ordre de la chair. Mais le sens allégorique nous permet à l'école des Pères de l'Église d'avoir une autre lecture, complémentaire et bien plus profonde pour ceux qui sont familiers par la prière et de Notre-Dame et de Saint Joseph. Ce qui a gêné Saint Joseph, ce n'est pas tant la grossesse dans cette lecture allégorique que le fait que Saint Joseph, connaissant Marie, connaissant sa perméabilité à la grâce de Dieu, voyant que Dieu avait sur elle un dessein particulier, Joseph préfère sortir de cette alliance, car il ne sait pas ce que le bon Dieu attend de lui. Doit-il rester aux côtés de la Sainte Vierge? Pourra-t-il véritablement l'épouser? Pourront-ils vivre véritablement, maritalement, ensemble, sans offenser ce projet que Dieu semble avoir sur la toute pure, Notre-Dame elle-même? Voilà pourquoi il avait donc décidé, de la répudier en secret, d'arrêter ce contrat de mariage et de laisser Notre-Dame vaquer à une vocation qui semble dépasser Saint Joseph. Alors l'ange vient, au sens littéral, préciser à Saint Joseph qu'il est attendu dans ce projet de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est le Père qui donne le nom de l'enfant. Il portera le nom de fils de David. Voilà que Saint Joseph le prend et va l'élever comme son fils légitime. Et l'ange de bien préciser à Joseph l'origine divine de cet enfant, mais également qu'il est attendu comme le protecteur. Et dans l'Évangile, selon Saint Matthieu, chaque fois qu'on entend parler de Saint Joseph, c'est parce qu'il va devoir veiller et sur la mère et sur l'enfant. Dans le mariage chrétien, fondé sur l'égalité entre l'homme et la femme, affirmé dès les premiers versets de la Sainte Écriture, ce n'est au commencement, Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. L'égalité est parfaite. Ce n'est pas l'homme qui est à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas la femme seule qui est à la ressemblance de Dieu. C'est la complémentarité et de l'homme et de la femme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cette complémentarité de l'homme et de la femme va alors s'ouvrir par amour à la vie. Croissez et multipliez-vous. Et bien voilà que cette loi de complémentarité est de l'homme et de la femme, et du père et de la mère, indispensable pour l'équilibre de tout enfant, avec la stabilité de ce couple, avec l'union indissoluble du mariage, avec une famille qui est alors la cellule de base de la société, nous retrouvons tout cela dans le modèle de la Sainte Famille. Saint Joseph va non seulement prendre avec lui son épouse, il va veiller en gardien sur elle. Cela nous dit que dans le mariage, eh bien, il y a ce respect mutuel, ce respect réciproque. Parce que l'homme et la femme ressemblent à Dieu dans cette complémentarité, il n'y en a pas un qui peut prendre le pas sur l'autre. Voilà qu'il y a cette complémentarité de ce que l'on appelle la chasteté. La chasteté ne dit pas que l'époux et l'épouse doivent être continents. Cela ne fonctionnerait pas, nous n'aurions pas d'enfants. La chasteté dit le grand respect que l'époux doit avoir pour l'épouse et le respect également que l'épouse doit à son époux. C'est sur ce respect, eh bien, qu'est fondé le sacrement du mariage. Saint Joseph a profondément respecté la Vierge Marie jusqu'à rester tous deux vierges, ne consommant pas leur union parce qu'ils se consacrent tous deux à Dieu. Saint Joseph et Notre-Dame sont véritablement les premiers consacrés, consacrés à l'œuvre de Dieu. Et parce que Joseph doit garder et la mère et l'enfant, il est considéré par l'Église comme le gardien des mystères de Dieu. Dieu n'a pas encore dévoilé tous ses desseins, bien que tout est contenu dans le nom de l'enfant. Tu l'appelleras Jésus, parce que Jésus signifie « Dieu sauve ». Et Dieu vient sauver son peuple. Et plus que son peuple, il vient sauver toutes les générations, il vient sauver toutes les nations, toutes les langues, tous les peuples. Il est le sauveur du genre humain. Non seulement Saint Joseph va donner son nom à l'enfant Jésus, il va également lui donner son nom de famille, fils de Joseph, descendant du roi David. Mais il va également lui transmettre son métier. On l'appellera dans l'Évangile, mais qui est-il donc celui-là pour faire des miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Ou même ailleurs, n'est-il pas le charpentier? Voilà que le Seigneur a appris de Joseph à bâtir une maison. Le charpentier ne faisait pas des toits, il construisait l'ensemble de la maison. L'enfant Jésus et le Seigneur lui-même, dans sa vie cachée, a appris à bâtir des maisons, pour bâtir par toute sa vie la maison surnaturelle qui est l'Église et qui réunit tous les chrétiens. Il est la tête de l'Église et nous sommes chacun membre de son corps. Saint Joseph, gardien des mystères de Dieu, dort toujours. C'est encore l'homme à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'ange ne lui apparaît pas directement comme à Notre-Dame, aurore du salut. L'ange vient toujours lui parler dans le songe dont nous venons d'entendre parler dans l'Évangile, mais aussi dans les songes qui fera qu'il faudra vite prendre et la mère et l'enfant, car Hérode décidera de massacrer tous les saints innocents et il va falloir fuir dans une terre étrangère, fuir en Égypte, tout laisser derrière soi pour protéger et son épouse et cet enfant. Voilà que Saint Joseph, eh bien, survivra avec la Sainte Famille en Égypte et que l'ange, encore une fois, lorsque Saint Joseph dormira, leur dira que les jours de l'enfant n'étant plus en danger, il peut rentrer à Nazareth. Alors que nous sommes réunis en ce 19 mars pour honorer Saint Joseph, nous pensons aussi avec les anciens d'Algérie à tous ceux qui ont dû quitter dans la douleur une terre qui était devenue notre patrie. Qui était notre patrie. Contrairement à d'autres territoires de notre empire colonial, l'Algérie était le territoire national. Eh bien, nous honorons tous ceux qui ont répondu à l'appel des drapeaux pour défendre notre patrie, tous ceux également, et les nombreuses familles, nous en avons, qui ont dû quitter une terre cultivée depuis plusieurs générations ou des entreprises. Car nous n'avons pas fait que le mal et la barbarie en Algérie. Nous avons fait aussi beaucoup de bien. Ne croyons pas qu'on a été s'installer là seulement pour profiter de quelques richesses. Combien d'hôpitaux, combien de routes, combien de services publics avions-nous mis en place? Alors que nous voyons la Sainte Famille s'exiler pour cette terre étrangère et revenir à Nazareth, nous portons avec Saint Joseph tous ceux pour qui ce conflit en Algérie est encore bien vif et des meurtrissures encore profondes sur cette terre qu'ils ont servie et profondément aimée. Nous prions bien sûr avec Saint Joseph, patron de la bonne mort, pour tous ceux qui sont morts lors de ce conflit. Et nous demandons également aux gardiens de la Sainte Famille de nous préserver de tous les conflits barbares sur notre sol, mais également tous les conflits qui, de par le monde, font tant de victimes. Joseph est passé à travers les cris de ses mères qui hurlaient parce qu'on venait de massacrer leur enfant, dans la terreur de devoir vite s'enfuir pour sauver le Fils de Dieu. Eh bien, nous savons alors que Saint Joseph ne restera pas sourd à nos appels de détresse. Enfin, le dernier épisode de Saints Évangiles où nous entendons parler de Saint Joseph est celui où l'enfant Jésus est âgé de 12 ans, un peu comme figuré sur la statue restaurée de notre église de Lus-Saint-Sauveur. Âgé de 12 ans, ce n'est pas un adolescent, ça n'existait guère il y a 80 ans, les adolescents. Dans la tradition juive, il est majeur. Selon la loi de Dieu, il a la majorité religieuse. Il va pouvoir, au milieu de la synagogue, dérouler les grands rouleaux et lire à haute voix la loi du Seigneur. C'est sa bar mitzvah. Et bien voilà qu'à 12 ans, le Seigneur Jésus, étant donc majeur, n'est pas dans la caravelle qui ramène les pèlerins à Nazareth. Angoisse de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. Où donc est Jésus ? Nous avons perdu Jésus. Perdu son enfant, c'est déjà beaucoup, mais en plus le Fils confié par Dieu. L'angoisse de Saint Joseph et de la Sainte Vierge ont duré 3 jours et 3 nuits, et ils vont le retrouver, assis au milieu des docteurs de la loi, qui étonnent ces grands spécialistes des mystères de Dieu par la pertinence de ces questions et également la grande intelligence et sagesse des réponses qu'il est capable de donner. « Mon enfant !» dira la Sainte Vierge dans l'Évangile selon Saint Luc. Et l'enfant Jésus de répondre à ce cri du cœur de sa mère, « Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Encore une fois, l'enfant Jésus, sans manquer de respect à ce Père adoptif qu'il aime tant, Saint Joseph, rappelle qu'il est avant tout le Fils de Dieu et qu'il est là, ici-bas, pour venir nous sauver. Eh bien, nous rendons grâce à Saint Joseph, parce qu'il a su garder Jésus. Et lorsqu'il a perdu avec angoisse, il n'a eu qu'une cesse le rechercher. Lorsque nous sommes perdus dans le péché, enténébrés par le péché, demandons à Saint Joseph la claire vision, même dans notre sommeil, de pouvoir retrouver Jésus, retrouver sa grâce et ses bonnes grâces. Puisse donc le glorieux patriarche de la Sainte Famille priez pour nous alors que nous l'honorons à un titre particulier en cette cité de Luce. Si Saint André, dans les temps anciens, est le saint patron de Luce, Saint Joseph est le patron de Saint Sauveur. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'empereur Napoléon III décida la construction de la chapelle, il la plaça sous la titulature de Saint Joseph. Saint André est donc notre patron principal pour la ville de Luce, Saint-Sauveur, et Saint-Joseph, son patron secondaire, qui se tient à l'ombre de l'enfant Jésus. Puisse-t-il donc veiller sur nous et sur notre cité, ainsi soit-il.